Pour ce 39e épisode, nous allons voir l'exemple d'un article qui peut induire les lecteurs en erreur sur une certaine compagnie. Comme je répète souvent, il est important de lire les articles positifs comme négatifs sur une compagnie afin de se faire une bonne idée générale et de mieux faire ses choix d'investissement. Par contre, il faut faire attention aux articles qui comportent des biais et qui font trop référence aux ratios et aux calculs illogiques. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je répète souvent dans le podcast, c'est toujours bon de lire des articles pour voir le bon côté d'une entreprise et aussi le mauvais côté pour avoir une bonne vue globale sur l'entreprise avant de l'acheter. Par contre, comment on sait qu'on est en train de lire un article bon et véridique et non d'un article qui dit n'importe quoi? En fait, cette semaine, j'ai eu une notification de l'application Seeking Alpha. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une application qu'on peut suivre ces entreprises et aussi lire parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent sur les entreprises. Donc, ça peut être des articles en faveur ou en défaveur d'une entreprise. Donc, c'est toujours bon de lire là-dessus. Il faut juste faire attention parce qu'il y a comme un service payant puis on n'a pas accès à tous les articles à part si on paye. Donc, c'est ça, j'ai reçu une notification de l'application comme quoi un nouvel article sur Spotify est sorti. Le titre m'a immédiatement attiré parce que l'auteur va aller expliquer pourquoi Spotify ne serait pas un bon choix d'investissement. Donc, j'ai mis l'article à lire pour plus tard parce que j'étais occupé. Et entre-temps, j'ai entendu des commentaires comme quoi l'article pouvait induire en erreur les lecteurs, puis aussi qui assument des choses trop rapidement. Donc, je vous invite fortement à lire cet article-là avant d'écouter le podcast. Je crois que ça va vraiment vous aider à mieux comprendre de qu'est-ce que je parle. Malheureusement, l'article est en anglais, mais pour ceux qui sont capables de lire en anglais, vraiment, je vous invite à aller le lire. C'est pas très long. Puis après ça, vous allez bien comprendre les arguments que je donne contre l'article parce que vous allez voir, l'article comprend beaucoup d'erreurs et je crois que l'auteur n'est pas allé jusqu'au bout de ses recherches. L'auteur, d'ailleurs, s'appelle David Trainer et il possède le site New Constructs qui permet de lire des analyses qu'eux, ils produisent et aussi d'avoir leur évaluation sur certaines compagnies publiques et privées. Puis, dans l'article que je vous ai mis dans la description, ils assument que Spotify est vraiment trop cher et que SiriusXM, donc la compagnie Sirius, par contre, comme une personne a écrit en commentaire autour de l'article, il y a une des deux entreprises qui a changé la manière que les gens écoutent la musique, alors que l'autre est un dinosaure. Donc, je vous laisse deviner un peu de lequel il parle, c'est assez évident. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous les arguments que l'auteur donne contre Spotify, et je vais ensuite vous donner mes arguments comme quoi c'est n'importe quoi qu'est-ce que l'auteur dit. Donc, c'est sûr, au début, quand vous allez si vous lisez l'article, vous allez commencer par voir plusieurs ratios. J'ai pas beaucoup compris les ratios qu'ils utilisent, donc je ne vais pas trop en parler. Mais qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'ils vont comparer Spotify en 2026 avec les parts de marché actuelles. Donc, avec ça, ils vont assumer que Spotify, en 2026, va représenter 88% du marché d'aujourd'hui. Et ils disent donc que ça fait aucun sens que Spotify représente 88% du marché d'aujourd'hui. Mais là, si je commence avec mon premier argument contre ça, c'est qu'il ne faut pas comparer Spotify en 2026 avec le marché d'aujourd'hui. Il faut le comparer avec le marché en 2026. Parce que le marché de l'audio et du streaming est présentement en forte croissance et en grande transition. Donc, on est en période de transition de la radio vers le streaming. Donc, le marché aujourd'hui, ça va représenter rien comparé à ce qui va être en 2026. Ça va être rendu énorme. Donc, oui, ça fait du sens qu'en 2026, la part de marché de Spotify représente 88% de celle d'aujourd'hui, puisque le marché va être rendu beaucoup plus gros à ce moment-là. Une autre chose qui m'a sauté aux yeux directement en partant, c'est qu'ils vont utiliser la valeur au livre pour évaluer l'entreprise. Et ils disent que Spotify vaut seulement 9 $ par action, ce qui est 97% en dessous de son prix actuel. Par contre, comme j'ai souvent dit dans le podcast, ça fait aucun sens pour une entreprise comme ça de regarder sa valeur au livre, vu que la plupart de sa valeur réside sur Internet. Par exemple, si on prend Microsoft, son prix de l'action est à peu près à 237 $, mais la valeur au livre sans enlever l'intangible est de 17 $. Si on prend Amazon, le prix de l'action est à peu près à 3140 $, mais sa valeur au livre est de 185 $. Donc, ça fait pas de sens d'évaluer une entreprise comme Spotify avec sa valeur au livre. Si on va un peu plus loin dans le texte, il y a un argument de l'auteur qui dit que Spotify n'a pas de possibilité d'économie d'échelle. Il supporte ça en disant que plus qu'il y a d'utilisateurs sur la plateforme, alors plus que Spotify doit payer les maisons de disques, parce que les licences que Spotify paye pour la musique sont basées sur un pourcentage du revenu généré par le nombre d'écoutes. Donc, il donne comme preuve qu'en 2019, les revenus ont augmenté de 29% et les paiements des licences ont aussi augmenté d'à peu près 29%. En 2020, c'était la même chose. Les revenus ont augmenté d'environ 17%, ce qui était la même chose pour le paiement des licences. Et selon l'auteur, la solution serait de couper les dépenses en opération, comme dans le marketing. Ça va faire en sorte que ça va diminuer l'habilité à Spotify à acquérir plus d'utilisateurs payants et ainsi réduire sa croissance. Puis l'auteur, il fait juste affirmer ça. Donc il dit, l'entreprise devrait couper dans le marketing, puis à cause de ça, ça va faire diminuer la croissance de Spotify. Et en plus, il rajoute que Spotify a peu de pouvoir de négociation pour diminuer le coût des licences auprès des maisons de disques. Donc là, avec ma tonalité, vous avez peut-être entendu que déjà là, c'est un peu n'importe quoi. Là, on va y aller avec mes arguments. Oui, l'auteur a pas tort que les licences coûtent cher à Spotify, et c'est pour cette raison que c'est difficile pour l'entreprise de sortir une marge de profit élevée. Donc, chaque fois qu'une chanson est jouée, environ 70% des revenus s'en va aux maisons de disques directement. Donc oui, ça, je suis d'accord avec lui. Ça coûte cher pour Spotify pour le moment. Par contre, il va donner une solution qui est impossible pour Spotify, surtout en ce moment. Ils ont vraiment donné une solution qui va mettre des bâtons dans les roues pour l'entreprise, puis qui va induire les lecteurs en erreur. Dans le fond, les dépenses en marketing sont extrêmement importantes pour l'entreprise. Je vous explique, si on s'en va voir dans le rapport annuel de 2020 de l'entreprise Spotify, il explique que les frais de vente et de marketing comprennent principalement les relations publiques, l'image de la marque, les frais de conseil, les frais d'acquisition de clients, la publicité, des événements en direct, les salons professionnels, les coûts reliés à la promotion des artistes et aux nouveautés sur la plateforme, ainsi que les coûts de mise à disposition d'essais gratuits du service premium. Donc déjà là, on a une bonne idée que le marketing est très important pour les artistes parce que ça va faire leur promotion. En plus, si on s'en va voir l'annonce que Spotify a faite en février dernier, donc l'événement Stream On, le lien va être dans la description dans le fond, c'est le même événement que j'ai abordé dans l'épisode 37 qui s'intitule « Évaluer les compagnies technologiques ». Si vous allez écouter cet épisode-là, j'ai fait un survol plus détaillé de l'événement de Spotify en février, mais on pouvait y entendre que Spotify fait énormément de promotions en ce moment pour les artistes surtout qui sont en hébergence. Par exemple, au lieu d'avoir une affiche de Spotify à Times Square, une grosse affiche qui fait de la promotion pour l'application, ça va être une affiche avec un artiste dessus et avec un petit logo de Spotify dans le coin. Donc, Spotify va vraiment mettre ses artistes en avant pour attirer les gens qui marchent sur la rue pour dire « Ah, cet artiste-là a l'air intéressant, je vais aller l'écouter sur Spotify. » Donc, ça va attirer du monde sur la plateforme et aussi des artistes qui vont se sentir plus attirés à passer directement par Spotify au lieu par une maison de disques. Si on analyse un peu plus les maisons de disques, à quoi ça sert exactement une maison de disques? En premier, c'est sûr que ça va donner un support aux artistes. Ça va aussi faire du marketing, la promotion, la distribution et l'administration aussi. Par contre, Spotify, ils sont rendus pas mal versatiles là-dedans, puis ils vont faire pas mal tout ça. C'est sûr que l'administration, on peut mettre ça de côté parce que Spotify a un dashboard, il y a une plateforme pour aider les artistes, mais ils vont s'occuper de la promotion, du marketing, ils vont, avec leurs algorithmes, faire promouvoir leurs artistes pour, par exemple, si vous allez dans la playlist, des nouveautés de la semaine, vous allez souvent voir des nouveaux artistes avec leurs nouvelles chansons. Donc, c'est comme ça qu'ils vont aider les artistes à se faire connaître. Si on insinue, par exemple, que Spotify n'a pas accès à un artiste à cause d'une maison de disques, donc ils ont essayé de faire des négociations, mais ça n'a pas marché, dans ce cas-là, oui, Spotify pourrait peut-être perdre des utilisateurs au profit des autres plateformes musicales. Par contre, c'est aussi à l'artiste un peu de décider. Et si un artiste n'a pas accès à Spotify à cause de sa maison de disques, ben, il va peut-être laisser faire sa maison de disques parce qu'il y a énormément d'utilisateurs sur Spotify. Et Spotify, vraiment, son but, c'est de faire découvrir de la musique et de la musique internationale. On peut entendre de la musique, si on veut, de n'importe où dans le monde. Donc, si un artiste veut se faire connaître mondialement, ben, c'est une bonne chose qu'il passe par Spotify. Donc, tout ça pour dire qu'un artiste aujourd'hui a beaucoup moins besoin d'une maison de disques qu'il y a une couple d'années. Surtout avec les médias sociaux, ça devient beaucoup plus facile pour eux d'avoir un contact direct avec leurs fans. Et avoir une plateforme comme Spotify qui aide la promotion, la découverte et la publication de leur musique, alors Spotify devient en tant que tel une grande maison de disques. En plus, Spotify offre plein d'avantages aux artistes qui passent directement par la plateforme et non par une maison de disques. Par exemple, il y a un moyen d'encourager les artistes directement sur la plateforme. Donc, par exemple, pour certains créateurs, vous allez voir un bouton encourager. Donc, vous pouvez leur envoyer de l'argent directement. Donc, si je reviens sur l'argument initial de l'auteur qui est que Spotify n'a pas de possibilité d'économie d'échelle, donc c'est complètement faux. En fait, plus qu'il y a de personnes qui utilisent le service premium, plus que les revenus augmentent, bien sûr, il y a aussi plus d'argent qui va s'en aller aux maisons de disques. Dans le fond, c'est comme une proportion. Par contre, il y a aussi les marges brutes qui vont augmenter. Donc, si on enlève le coût des licences aux revenus, ça nous donne la marge brute. Donc, ça donne plus d'argent à Spotify pour faire des acquisitions et du marketing. Donc ça va attirer plus de gens, ça va attirer aussi plus d'artistes et le nombre d'artistes indépendants vont augmenter de plus en plus. Donc les marges vont augmenter aussi de plus en plus à cause qu'il va y avoir moins de maisons de disques et donc le ratio va commencer à diminuer. En plus, Spotify est en train de regarder des possibilités de monétiser les podcasts. Donc avec la grande conversion de gens qui transitionnent de la radio au streaming, même si les gens ne sont pas nécessairement abonnés au service premium, mais qui écoutent des podcasts, ben ça va quand même rapporter un revenu à Spotify. Si maintenant on passe au deuxième argument de l'auteur qui est Spotify n'est pas différent des autres plateformes audio. Donc, pour supporter ça, l'auteur dit que puisque Spotify ne possède que très peu de contenu sur sa plateforme, comme ses compétiteurs d'ailleurs, la compagnie manque de différenciation avec les autres compagnies. En plus, Spotify offre seulement environ 50 millions de chansons, alors que Apple Music, Amazon Music et YouTube Music en offrent 60 millions. Il ajoute aussi que chacune de ces plateformes musicales dépend fortement des trois grandes principales maisons de disques pour leur contenu musical, et mis à part les listes de lecture ou les capacités des algorithmes, chacun offre la possibilité de diffuser de la musique via différents appareils. Les entreprises sont donc pas différenciées. Spotify en plus ne génère pas de marge élevée et la concurrence peut offrir son produit gratuitement. Donc encore là, il y a comme plein d'erreurs dans le texte et voici donc mes arguments. Il n'y a pas 50 millions de chansons disponibles sur Spotify, mais bien 70 millions. Je vous rappelle que c'est un article qui a été écrit très récemment et les chiffres sont sortis depuis assez longtemps de Spotify. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'auteur a pris 50 millions au lieu de 70 millions, peut-être dans son but de dénigrer Spotify au profit des autres entreprises. Je n'ai aucune idée, mais il y a une erreur là. Et selon moi, la chose la plus importante que Spotify possède, ce sont les algorithmes. Si je vous invite à aller voir les commentaires en dessous de l'article, dans le fond, premièrement, tous les commentaires sont en faveur de Spotify et ils réprimandent les erreurs de l'auteur. Mais aussi, les commentaires, ils disent qu'il n'y a pas de meilleure plateforme que Spotify pour la découverte de musique et de podcasts. Et c'est totalement vrai. Moi-même, j'ai essayé d'autres plateformes. Je pense que l'une des pires que j'ai utilisées, ça doit être Amazon Music. C'est pas très intuitif. Il n'y a aucune découverte de musique. Donc, Spotify est vraiment fort là-dessus. Et même dans l'annonce Stream On que Spotify a faite en février, ils ont dit qu'ils veulent offrir une expérience musicale pour chaque utilisateur. Donc, ils vont travailler très fort sur le développement des algorithmes pour offrir un service personnalisé à chacun des utilisateurs et ainsi faire découvrir de nouvelles chansons et de nouveaux podcasts à chacun. Ça va donc augmenter la rétention de ces utilisateurs et les garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Aussi, qu'est-ce qui est important à retenir, c'est que Spotify est seulement spécialisé dans l'audio et c'est ça qui fait sa force. Comme Apple, il n'est pas juste spécialisé dans son service musical, mais bien au niveau technologique de ses appareils, aussi dans d'autres services. Ils ont lancé récemment le service Apple Fitness qui permet d'offrir des entraînements à domicile. Mais si je reprends l'exemple que j'ai donné dans l'épisode 37 entre Google Plus et Facebook, dans le fond, Google Plus voulait faire concurrence à Facebook en offrant un réseau social. Par contre, même si Google avait beaucoup plus de ressources financières que Facebook à l'époque, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner leur service. Sûrement, entre autres, parce qu'ils étaient peut-être trop diversifiés, ils passaient trop de temps sur d'autres choses et ils ne se sont pas assez concentrés sur leur service de réseau social. Aussi, une autre chose qui peut expliquer ça, bien sûr, c'est les utilisateurs qui étaient déjà sur Facebook et qui ne voulaient pas changer à Google Plus parce qu'il n'y avait aucun ami sur Google Plus. Là, c'est la même chose avec Spotify. L'application musicale a beaucoup d'utilisateurs. Et les concurrents comme Amazon, Apple et Google, avec leur service de YouTube Music, ils sont tous diversifiés dans d'autres choses que la musique, alors que Spotify, la compagnie Spotify, c'est juste une compagnie musicale qui est juste spécialisée dans l'audio et qui a pour but de faire découvrir des musiques et des podcasts aux gens. Finalement, une autre petite erreur dans l'argument de l'auteur, c'est que il a dit que la concurrence offrait leurs produits gratuitement, mais c'est pas vrai. Il faut aussi payer. Par exemple, Apple Music, je crois que vous avez le droit à 3 mois gratuits. Ensuite, vous devez payer. Ça doit être quelque chose de similaire pour les deux autres. Je suis pas sûr là-dessus, mais il n'y a pas de service gratuit. Tandis que Spotify, oui, ils offrent un service gratuit. C'est sûr que ça vient avec plusieurs restrictions. Mais donc, je vois pas vraiment le point de l'auteur là. Ça serait une autre erreur à mon avis. Si on passe maintenant au troisième argument de l'auteur, qui est que le contenu exclusif ne mène à rien. Donc, pour supporter ça, l'auteur dit que Spotify imite Netflix en proposant du contenu exclusif, largement au niveau des podcasts, ce qui peut être une stratégie de plus en plus coûteuse dans le temps. Aussi, Spotify va dépenser beaucoup d'argent pour se procurer du contenu exclusif, mais seulement environ le quart des utilisateurs au total sont des utilisateurs de podcasts, donc ils vont écouter des podcasts. Donc, selon l'auteur, ce serait un mauvais investissement. Finalement, il dit que des concurrents qui ont les poches plus profondes, comme Amazon et Apple, se développent également activement dans les podcasts, ce qui va diminuer la différenciation que Spotify peut atteindre. Donc, encore là, c'est pas totalement vrai qu'est-ce qu'il dit. Netflix, au début, investissait énormément d'argent dans son développement et à produire du contenu exclusif, et ça a marché. Aujourd'hui, Netflix est rendu très gros, et je crois que c'est la même chose qui va arriver avec Spotify. Oui, ils doivent payer pour avoir, par exemple, des licences pour la musique, mais de plus en plus, les artistes vont devenir indépendants. Dans le fond, c'est un peu comme j'ai dit au début. Et si on prend l'exemple du podcast de Joe Rogan, donc je crois que c'est le podcast le plus écouté en ce moment. Avant même que Spotify achète le podcast pour qu'il devienne exclusif à sa plateforme, le podcast de Joe Rogan était accessible sur YouTube. Et donc, avant même que le podcast soit disponible sur Spotify, c'était le podcast le plus recherché sur Spotify. Donc ça, je trouve ça quand même spécial. Même si l'émission n'est pas sur la plateforme, c'était le podcast le plus recherché. Donc, c'est vraiment en achetant du contenu exclusif que là, ça va attirer des gens sur leur plateforme parce qu'ils n'auront pas d'autre choix pour écouter les podcasts que d'aller sur Spotify. Passons maintenant au quatrième argument de l'auteur qui est que les compétiteurs détruisent la capacité de Spotify à établir ses prix. Il dit donc que la plus grande menace qui pèse sur Spotify, c'est qu'il y a plusieurs concurrents qui offrent un service musical à un prix beaucoup moins cher ou même gratuit. Donc, des entreprises comme Apple, Amazon et YouTube offrent des services de streaming moins dispendieux. Spotify, en plus, n'a qu'un seul moyen de faire du revenu et c'est avec les abonnés premium. Il doit donc facturer plus pour réaliser un profit. Encore là, peut-être qu'à ce moment, vous commencez à devenir la routine. C'est encore plein d'erreurs parce que Spotify n'a pas un seul moyen de faire du revenu, au contraire. Ils pensent entre autres à monétiser des podcasts, ils vont générer des revenus avec ça. Ils font aussi des revenus avec les publicités sur le service gratuit. Et les gens, au final, vont être prêts à payer plus cher pour avoir une plateforme de qualité, surtout si toutes leurs émissions favorites y sont. Donc, si vous écoutez par exemple l'émission de Joe Rogan, ben, vous n'allez pas quitter pour Apple Music. Parce qu'il y a juste Joe Rogan sur Spotify. Donc, plus qu'un utilisateur va être accro à la plateforme, plus que la plateforme va devenir indispensable dans son quotidien, bien, il y a beaucoup moins de chances qu'il change de service musical. Aussi, la plateforme va être de plus en plus développée, ce qui va augmenter les interactions entre les artistes et les fans. Par exemple, il y a des stories qui s'en viennent, donc un peu à la manière de Facebook ou Instagram. Donc, c'est des stories que les artistes vont pouvoir créer pour rester en contact avec leurs fans. Et ils vont bientôt proposer le service Spotify Hi-Fi. Puis ça va être un service qui va coûter un peu plus cher, mais qui va donner accès à de la musique de meilleure qualité. Et ça, au final, ça va attirer une couple de personnes qui vont vouloir écouter de la musique de plus haute qualité, mais ça va peut-être pas attirer tant de personnes que ça, selon moi. Mais au moins, ils vont pouvoir proposer un éventail de choix à leurs utilisateurs. Donc, par exemple, quelqu'un qui, lui, ça lui dérange pas d'avoir des publicités ou il veut pas payer pour écouter de la musique, il peut seulement utiliser le service gratuit de Spotify et c'est sûr qu'il y a quelques inconvénients, mais il peut quand même écouter des podcasts et de la musique en mode aléatoire. Quelqu'un qui veut, peut-être comme moi, qui écoute de la musique à tous les jours, va payer pour le service premium et quelqu'un qui est vraiment audiophile, qui aime ça écouter pendant des heures de la musique de haute qualité avec des bons écouteurs, bien, il va peut-être opter pour un service un peu plus cher, mais qui va lui procurer une meilleure qualité de musique. Donc vraiment, le but de Spotify, c'est d'être diversifié au niveau musical. Et moi, une idée que j'aurais pour Spotify, ça serait d'offrir des livres audio aux utilisateurs. Donc comme ça, ils vont être encore plus diversifiés et offrir plus de produits, toujours au niveau audio. Un cinquième et dernier argument que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que l'auteur dit que le manque de profitabilité rend peu probable Spotify de battre la compétition. Ça, encore une fois, selon moi, c'est faux. Oui, je suis d'accord que l'entreprise est peu profitable, mais c'est à cause qu'ils vont réinvestir tout l'argent qu'ils font dans leur développement. C'est clair que si l'entreprise voulait, il pourrait être profitable et attirer le même genre d'investisseurs que l'auteur. Mais dans le fond, on n'aurait pas une super bonne entreprise parce qu'elle viserait pas la croissance, elle viserait juste la profitabilité. Mais là, en réinvestissant tout l'argent que Spotify peut réinvestir, ben là, ils vont vraiment développer au maximum la plateforme, développer des nouvelles idées, faire du marketing, attirer les artistes, les utilisateurs et grossir beaucoup plus rapidement. Comme vous savez, Spotify est le leader en ce moment des services musicaux. Et puisqu'ils sont vraiment des spécialistes dans le domaine musical, selon moi, ils ont déjà battu la compétition parce que justement, ils sont spécialisés, ils font juste ça. Je peux peut-être faire un parallèle avec le sport. Si on prend par exemple quelqu'un qui fait un triathlon et un cycliste qui fait le Tour de France, je peux vous assurer que le cycliste va être beaucoup plus spécialisé dans son sport et être meilleur au vélo que le triathloniste. Parce que celui qui fait le triathlon doit se concentrer non seulement sur le vélo, mais aussi sur la course et la nage. Donc, il ne va pas être nécessairement super adapté au vélo parce qu'il doit être aussi adapté pour les autres sports. Il va consacrer plus d'énergie aux autres sports aussi. Tandis que le cycliste va uniquement faire du vélo. Il va vraiment être adapté pour le vélo. Il va être parfait, disons, pour le vélo. Puis il va pouvoir mieux performer qu'un triathloniste. Donc, c'est la même chose pour les entreprises en bourse. Vraiment une entreprise qui est spécialisée dans son domaine, qui fait juste ça, c'est clair qu'elle va être meilleure qu'une autre entreprise qui fait, OK, plusieurs produits, qui offre des produits, différents services, mais jamais un de ses services va être meilleur qu'une entreprise qui fait juste ça. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vous répète encore une fois que c'est très intéressant de lire des articles positifs comme négatifs sur une entreprise pour en premier éviter le biais de confirmation. Donc, je vous invite à l'écouter l'épisode 7 qui s'intitule Pourquoi vos pensées vous nuisent-elles? Donc, c'est vraiment un biais qui va faire en sorte que vous allez juste confirmer qu'est-ce que vous pensiez déjà. Mais en lisant un article autre que qu'est-ce que vous pensez, vous allez éliminer ce biais-là et ainsi avoir des chances de mieux investir. Et ça va aussi vous permettre de savoir ce que les autres aiment pas sur une certaine compagnie. Et ça pourrait expliquer pourquoi des fois on pourrait avoir l'entreprise à meilleur prix. Donc par exemple, quelqu'un qui a vraiment peur des maisons de disques et qui va vendre Spotify à cause de ça. Bien, on voit qu'on peut, en réfléchissant un peu, en regardant d'autres opinions, qu'on peut justifier les maisons de disques, qu'on peut se dire, OK, mais Spotify encourage beaucoup les artistes, ils font la promotion pour eux, ils les encouragent à devenir indépendants, et donc les maisons de disques vont devenir de moins en moins nécessaires, et le pouvoir de Spotify va augmenter par-dessus ces maisons de disques. Donc, grâce à ça, grâce à notre réflexion, on va pouvoir profiter de la baisse du prix et profiter de l'occasion pour acheter des titres. Donc, ma source d'aujourd'hui provient principalement d'un article qui est sorti directement après celui que j'ai parlé aujourd'hui. Le lien va dans la description et dans le fond, l'article va aborder des problèmes, dans le fond, la plupart des problèmes que l'auteur d'aujourd'hui a parlé. Mais il va aussi voir qu'est-ce que l'entreprise fait face à ces problèmes-là, qu'est-ce qu'elle entreprend. Et il utilise donc sa logique et non des ratios bâtards pour évaluer l'entreprise. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut penser en tant qu'investisseur. C'est pas juste de se dire, OK, il y a tel problème, donc j'achète pas. Il faut plutôt se dire, OK, il y a tel problème. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Si elle fait quelque chose, est-ce que ça va vraiment mener à quelque chose qui va améliorer sa situation? Et c'est le cas de Spotify. Par exemple, il y a un problème avec les maisons de disques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils encouragent les artistes à devenir indépendants et ça va ainsi faire diminuer le pouvoir des maisons de disques. Alors, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez aussi partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va dans la description. Et n'oubliez pas que le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous avez entendus proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.